Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Et bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 février, vous êtes dans Cinérama, c'est Marine, je suis revenue. On avait reçu tellement de mails de millions de fans désespérés à la radio qu'il fallait quand même que je revienne. À ma droite, Manu, qui est...
Bonjour Marine.
La malgré la grippe.
Oui, pas la grippe, bronchite.
Et à ma gauche, nous allons le dire, Vincent, bonjour Vincent.
Eh bien bonjour Marine.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Eh bien moi, je vais vous proposer en fait une petite interview de Danny Boone. Enfin, c'était une conférence de presse, il était présent ici à Montpellier, alors je ne vais pas parler de son film Superchondriac qui n'est pas follement intéressant, mais c'est plutôt son discours, c'est ce qu'il dit sur le cinéma, ce qu'il dit sur son cinéma, ce qu'il dit sur les comédies françaises, ce qu'il dit sur le cinéma français en fait. Voilà.
Très bien, et toi Manu?
Ben, je vais vous parler du dernier film de Jim Jarmusch sur les
avec
vampires.
Un peu plus d'enthousiasme même.
Il a la bronchite.
Only Lovers Left Alive. Et l'enthousiasme là, le film il est pas vraiment très emballant hein, donc voilà. Et la ressortie nationale dans une copie neuve de Phantom of the Paradise.
C'est donc le Palma
de Palma de l'année de la semaine.
Et pour ma part, je vous parlerai de Pompéi. Voilà. C'est Cinérama.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Alors, Jim Jarmusch nous avait laissé avec le très hermétique The Limit of Control. Là, il nous revient donc avec un film de vampire. L'icône du cinéma branché et indépendant scoltine avec le cinéma de genre. Chouette, se dit-on dans un premier temps. Alors, à un moment où le cinéma américain infantilise quand même le thème du vampirisme, hein, avec la série notamment des Twilight, et bientôt, puisque j'ai vu la bande-annonce Vampire Academy... on ne peut que respecter la démarche du réalisateur de Deadman, qui peut faire un film un peu dans la lignée de The Addiction, qui était un excellent film de Ferrara. Hélas, Only Lovers Left Alive n'est qu'un pensum ennuyeux, prétentieux et surtout d'un snobisme hallucinant. En fait, le film narre les déambulations nocturnes de deux vampires dandy de Détroit à Tanger dans un style poseur et mortifère. Au moins... Jarmusch est en accord avec le sujet, il ne se passe absolument rien. Le cinéaste associe l'univers des suceurs de sang à celui de son propre univers, hein, des rockers un peu punk, intello de la fin des années 70, qui arpentaient les clubs, notamment le CBGB, je crois. Ils écoutaient Television et New York Dolls, et là, la musique ressemble un peu à du Sonic Youth. Ben voilà, on voit souvent le personnage principal avec sa guitare composer des morceaux, enfin c'est terrible pendant une heure. J'ai trouvé ça terrible. Voilà, nos deux vampires sont réfugiés dans une culture vintage et pop. Hein. Ils collectionnent donc les vieux vinyles, écoutent ce que je disais du rock dépressif qu'ils diffusent sur des amplis d'un autre âge, dissertent sur une culture du passé. Alors ils traînent leur ennui, le nôtre avec, leur mélancolie méprisante avec souvent une suffisance qui est assez désagréable. Enfin, Jarmusch, il semble regretter une époque, un style de vie. Un peu rock'n'roll, loin de la superficialité, la décadence du monde moderne. Et il propose même, je trouve, un discours réac qui est assez curieux de la part d'un auteur qui se réclamait quand même un peu du cinéma un peu avant-gardiste, mais ici, il est plongé dans un passé très artificiel et fétichiste. Voilà, les êtres humains sont qualifiés dans le film de zombies. Moi, je croyais qu'il allait vraiment avoir des zombies et un peu d'action, mais non, ce sont les êtres humains... Qui sont qualifiés par ces vampires lettrés pour qui le plaisir est tout de même banni. Ça n'existe pas. Ils ont traversé les siècles, croisé des figures comme Schubert, Byron. On apprend que Shakespeare n'a rien écrit, que c'est un vampire qui a tout écrit l'œuvre de Shakespeare. Enfin, moi, j'étais assez consterné. Le film bénéficie tout de même d'une très belle lumière. Hein, c'est assez bien filmé. Mais hormis ça, c'est vraiment d'un ennui qui est même contagieux. Hein.
Enfin, et d'une bonne BO, au moins, non?
Oui, si on aime
Sonic Youth.
Sonic Youth, oui, bah c'est pas mal. La musique, elle est bien. Hein. C'est une musique un peu rock, on va dire progressive rock, post rock. C'est pas mal. Ah si, il y a l'apparition de la jeune Mia Wasikowska qui donne un peu de peps au film, parce que c'est une vampire moderne, qui elle suce vraiment le sang. Le
on
sang.
Dit boire du sang, Manu, il me semble.
Ah, elle boit le sang des vrais gens, et pas dans des petits flacons ou en forme de glace. Parce qu'à un moment donné, il mange une glace
au
sang. C'est touchant.
En tout cas, c'est après Limit of Control, qui était déjà un film un peu délicat, très taiseux, où il désamorçait toute action. Moi, ça m'avait beaucoup ennuyé. On dirait que ça s'arrange pas pour.
Non. Pour Jarmusch. J'ai l'impression qu'il s'enferme dans un système comme ça, d'un cinéma d'une autre époque. Ça fait très daté, très vieillot, je trouve, surtout. Pourtant, je pense que des films comme Dead Man ou c'est Ghost Dog,
oui.
C'était vraiment des formidables films, justement, qui retravaillaient à l'intérieur d'un genre, mais ils respectaient le genre. Là, on sent que le cinéma des vampires, ça l'intéresse pas du tout. Donc, il essaye de faire autre chose, mais ça fonctionne pas à aucun moment, en fait.
Très bien. Et bien, maintenant, sans aucune transition, nous allons enchaîner sur un petit peu de Danny Boone.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et oui, Danny Boone qui sort aujourd'hui sa super production avec Cadmerad. Quand je dis super production, c'est que ça coûte quand même 19 millions d'euros de faire une comédie. Alors le casting, donc, c'est Cadmerad et Danny Boone, c'est ça qui est important parce que forcément, ils remettent en place le casting des ch'tis. Alors est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner? Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment fonctionner. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de pubs qui est déjà faite autour de ce film. Alors ce qui était intéressant dans la conférence de presse de Danny Boone, alors c'est déjà qu'il a beaucoup parlé, en fait. Il a très peu laissé parler Cadmerad, qui a dû répondre à deux questions et puis faire deux, trois blagues. Mais il a essayé de se justifier, en fait, sur le scénario, en estimant que lui, il savait faire des scénarios, que les comédies françaises, en fait, elles étaient plutôt ratées parce que le scénario n'était pas là, que c'était avant tout un casting de stars. Donc il s'est mis en avant comme ça, et en précisant d'ailleurs qu'il avait fait des études, tout simplement des masterclass aux États-Unis pour apprendre à faire des scénarios. Vous allez apprendre aussi autre chose, c'est qu'il a embauché des jeunes scénaristes pour travailler sur des productions. Voilà, ça c'est l'interview de Danny Boone dans Cinérama. Ça dure 7 minutes, alors je me suis permis aussi de mettre des extraits d'autres films de alors non pas de Danny Boone, mais de comédie française, ratée ou pas d'ailleurs.
Dis-moi que t'as envie de moi. Dis-moi que t'as envie de moi.
J'ai envie de toi.
Plus fort.
J'ai envie de toi.
Plus fort.
J'ai envie de toi.
Plus fort.
J'ai envie de toi.
Comme un homme.
J'ai envie de toi.
Comme un homme, vas-y.
J'ai envie de toi. J'ai envie de toi.
Voilà, là.
Toi.
Mais là, tu m'impressionnes.
J'ai envie de toi.
Oui. Voilà, comme ça.
Je crois même que j'ai pris un peu en masse musculaire, là, grâce au footing, non?
Ah oui, sûrement, là.
Les films font les entrées qui méritent. Les films font les entrées qui méritent. Si les gens ont envie d'aller voir un film et aiment le film, ils vont le voir. Et si le film... Et ensuite, c'est le bouche à oreille qui va faire aller les gens au cinéma. Je veux dire, on fait de la promotion pour un film, on dit voilà, tel jour sort tel film. Si on est en face, il y a effectivement deux grosses comédies qui sortent le même jour...
L'argent, toujours l'argent. La démesure, l'ubris, l'humanité, où vas-tu?
Eh ben, le public va se partager pour aller voir ces comédies et le bouche à oreille sera moins fort, puisqu'il y aura moins de monde devant les salles pour justement lancer ce bouche-à-oreille.
Tu peux dire à Joe Spinoza qu'il aurait tout de suite de faire son cours parce que c'est vraiment pas le moment.
Voilà, donc à partir du moment où il y a 15 jours, ça laisse largement le temps au film de s'installer et ça laisse largement le temps aux gens de se dire tiens, je vais aller voir Super Condriac ou...
Ouh, les frères Latour.
Ou un autre film la semaine d'après. Je vous dis, il y a de la place pour tout le monde. C'est le principe. C'est sûr que c'est plus compliqué pour les plus petits films ou qui sortent le même jour.
Bradrapra, fladlapla, glavlacla.
Bradrapra, fladlapla,
glavlacla.
Mais vous êtes complètement nuls! Il faut ouvrir les voyelles et frapper les consonnes.
C'est un chouette projet, hein?
Oui, très.
Moi qui vis en ce moment aux États-Unis et qui travaille avec des scénaristes américains, avec des studios américains. La différence, elle est là. C'est que là-bas, le scénariste, c'est un métier, quoi. Et
un métier considéré.
Considérez, attention, il y a une blague à Hollywood qui est très connue, c'est un scénariste qui arrive au studio et qui se gare sur une place handicapée. Et il y a le gardien qui arrive en disant « Oh, c'est une place handicapée, faut dégager de là ». Et le gars dit « Ah, mais je suis scénariste ». Il fait « Oh, pardon, excusez-moi ». C'est une blague qui est très connue, comme les blagues de Toto, mais à Hollywood. Donc il y a énormément de scénaristes aux États-Unis, enfin à Hollywood, il y a énormément de scénaristes. Il y a les scénaristes pour les studios. Dès, à partir du moment où il y a beaucoup de scénaristes qui bossent et qui ne sont jamais produits, beaucoup de scénarios, énormément. Il y a même il y a un site qui est la blacklist des scénarios, où c'est des scénarios que les gens considèrent comme formidables, qui ont été lus, mais qui ne se font jamais. Et il y a beaucoup de gens qui galèrent. Vous prenez The Butler, le majordome, qui est un film. Si vous regardez le producteur et les gens qui sont au Sénat, tout ça, il y a des kilomètres de gens, parce que le film a été mis en production, s'est arrêté, recommencé. Enfin, ça a été. Mais effectivement, il y a une école d'écriture. Moi-même, j'ai fait des stages. J'ai fait McKee, moi. J'ai fait Robert McKee. Il fait un masterclass que j'ai fait. J'ai lu des bouquins, Sidefield, Iglesias. C'est des gens qui ont... C'est des scénaristes qui ont écrit des méthodes d'écriture au scénario, qui ont expliqué l'écriture au scénario. Il y a des règles, effectivement, sur l'écriture scénaristique qu'il faut connaître, même si c'est pour les transgresser. Mais en tout cas, effectivement, il faut les connaître. Et aux États-Unis, il y a plus cette culture-là. Maintenant, le problème en France, s'il y a un problème, c'est que, en général, le scénariste dit « Ah, mais moi, je suis réalisateur. C'est moi qui vais réaliser le film, mais je vais peut-être jouer dedans. » Ou ma sœur, mais on va être. Il y a un côté plus artisanal où d'un seul coup.
Pas possible que le côté patriotique de la chose t'échappe.
On a des velléités de moi je l'ai fait, hein. Je veux dire, j'ai écrit un scénario, j'ai réalisé, j'ai joué dedans. Mais il y a plus ça ici qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, tout est compartimenté, quoi. Et moi, je travaille sur le scénario, par exemple, de la Fox avec le scénariste. Mais je ne vais pas être à l'écran au scénario, alors que je bosse dessus, que j'amène des idées. La WGA oblige à écrire 50% du scénario pour être considéré comme auteur du scénario. Donc les deux méthodes sont totalement différentes. C'est vrai que moi-même, en production, je finance de l'écriture, je cherche des auteurs... Je dois avoir 4 ou 5 scénarios en écriture, je paye des gens pour écrire, pour produire en fait, pas pour moi, mais pour produire des films de jeunes réalisateurs, voilà, en disant, voilà, le scénario serait important et je les fais bosser, écrire. Le défaut de la France, c'est que parfois, il y a des films qui se montent sur des noms, et puis voilà, les films se font alors que le scénario n'est pas encore abouti.
Il faut surtout arrêter, tout arrêter. Une journée comme aujourd'hui, on n'a même pas payé le gasoil. Qu'est-ce qu'on fait de torpille ? Va au bout ! Moi, j'ai toujours l'appartement de ma mère sur le dos. Fifi, on y met tous du sien. Je rappelle que c'est Mafuego qui tire le van. Hein, je dis rien. Quand même, une voiture qui a appartenu à Herbert Léonard.
Voilà, souvent, les gens appellent en disant « J'ai un tel qui va tourner dans ce film. » Et il vous dit « On aimerait bien vous prendre avec cet acteur-là ou cette actrice. » Et on dit « Ah, c'est sympa. » Et si on appelle l'acteur, il dit « Ah non, non, ils m'ont dit la même chose que toi, t'avais dit oui. » Et les trucs se montent un peu. Bon.
On est à la pétanque, là. Moi, j'ai juste 3 clampins en pantacourt qui jettent des boules de métal. Donc, je suis obligé de faire du spectacle à l'image. Pardon.
Comme l'année a été compliquée, l'année 2013, d'un seul coup, il y a une sorte de surenchère, de flagellation, d'auto-flagellation, en disant notre cinéma, ceci, notre cinéma. Je vais vous dire, le cinéma français est très reconnu à l'étranger, voyage très, très bien. Fait 3 films en tout, ils ont fait monde quoi, hein. Genre à peu près rien que la salle, pratiquement 40 millions d'entrées sur 3 films. Ces 3 films ont rapporté de l'argent qui est venu en France et qui paye des impôts ici et qui finance une partie du CNC, qui finance des plus petits films. Et je suis ravi, c'est le système, ça marche comme ça.
Peut-être pas la bonne manière de compter ça.
Je reste en fait très serein vis-à-vis de tout ce qui se passe et de tout ce qui se dit.
Je n'ai rien contre le principe, mais. Quel était le problème ?
Voilà, donc c'était Danny Boone que vous entendiez dans Cinérama.
Tout en modestie.
Ouais. Et il a parlé aussi alors des adaptations des ch'tis. Il a parlé d'une adaptation des ch'tis en Asie. Alors je suppose que c'était en Chine. Et il a dit que là-bas, en fait, quand il parlait des budgets du cinéma, enfin, il était question du budget des cinémas français parce qu'on l'a accusé de gagner trop, hein, d'avoir des trop gros cachets, Danny Boone. Et là, il disait que en fait, en Asie, c'était de l'ordre de 60% pour les acteurs et 40% pour le reste de la production. Donc celui qui devait adapter les ch'tis était très embêté parce qu'il voulait un acteur bankable, mais c'était quasiment impossible de l'avoir pour ces raisons, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la production. Voilà.
Très bien. Et donc, Hypochondriac, ça sortira ?
Superchondriac.
Superchondriac.
Ça sort aujourd'hui. Nous sommes
entre
en pleine actu.
Nymphomaniac, Hypochondriac, je confonds tout. Et donc, ça sort aujourd'hui au Gaumont.
Ça sort aujourd'hui. Et on n'en parlera pas, enfin, spécialement.
Et donc, nous n'en parlerons pas. C'est toujours Cinérama.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Et on enchaîne tout de suite sur Pompéi.
C'était le joyau de notre empire.
Peuple de Pompéi, que les jeux commencent !
Un lieu de corruption.
Qu'on les tue.
De tentation.
Cet esclave te regarde comme dans un rêve, Cassia.
Et de lutte.
Quel est ton nom ?
Mon nom est Milo.
Pour survivre, demain nous nous battrons. Un esclave qui survit gagne sa liberté. Des quatre coins de l'Empire romain, les gens affluaient vers ce lieu.
Si on te trouve ici avec moi,
cela en vaudra la peine. Qu'est-ce que c'est ?
C'est la montagne.
Mais malgré notre puissance,
tu le sens toi aussi ?
Nous vivions dans l'ombre d'une force plus grande encore.
Alors, Pompéi, eh bien, c'est donc le nouveau film de Paul W.S. Anderson, à ne surtout pas confondre avec Paul Thomas Anderson, qui avait donc réalisé le très bon Magnolia ou récemment The Master, ni avec Wes Anderson non plus, dont le Grand Budapest Hotel sort aujourd'hui. Non, Paul W.S. Anderson, lui, a réalisé Mortal Kombat. Vas-y, Manu, je sens que ça te fait plaisir quand même de le dire.
Resident Evil.
Tous les Resident Evil.
Pas tous, hein. Le premier, puis les derniers, les deux derniers. Et puis surtout, la nouvelle version des Trois Mousquetaires qui était sortie il y a 2 ans.
Et Alien aussi versus Predator. Enfin, globalement, bon, son seul fait d'arme est d'avoir donné une seconde carrière à Mila Jovovich, qui l'a d'ailleurs épousée après s'être séparée de Luc Besson. Ce qui prouve quand même qu'elle a vraiment très 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 mauvais goût. Bref, digression terminée. Alors donc, l'histoire de Pompéi, eh bien, on la connaît. Un méchant volcan, une cité en danger, à la fin tout le monde meurt. Et la grande question qui demeure, eh bien, c'est comment Hollywood va-t-il réussir à nous emballer tout ça dans un gros packaging mélodramatique. Eh bien, c'est très simple, Pompéi est pompé sur ce qui s'est fait de mieux en matière de films catastrophes et de péplum. Il louche allègrement sur Gladiator et emprunte largement à Titanic, sans pour autant atteindre un centième de l'intensité de l'un ou de la force narrative de l'autre. La principale qualité d'un film catastrophe réussi, c'est en effet de parvenir à nous faire patienter avant l'arrivée de la dite catastrophe, tsunami, tremblement de terre, tornade, j'en passe et des meilleurs, grâce à une intrigue suffisamment bien ficelée et à des enjeux solides. Bah ici, tout est bien trop bâclé pour que l'on puisse s'intéresser au sort des personnages qui, par ailleurs, n'ont absolument aucune épaisseur. Et vous conviendrez que pour un film en 3D, c'est ballot. Blague. Merci, j'aimerais bien qu'il y ait des rires, en fait, en fond, quand je fais des blagues comme ça. On s'intéresse donc mollement au sort d'un esclave avide de revanche, pauvre mais sexy quand il transpire néanmoins, auquel arrivent des péripéties composées à partir de copier-coller de scénarios préexistants. Arrivé à Pompéi pour y devenir gladiateur, il tombe amoureux de la princesse, évidemment promise à son pire ennemi, très riche et très méchant, qui est un haut fonctionnaire de Rome, et qui compte bien mettre main basse sur la cité italienne donc de Pompéi. Mais pendant ce temps, le Vésuve gronde.
Qu'il advienne, nous serons libres, mon ami. Il faut gagner le port.
Nous le ferons ensemble.
Montez
Alors, force est de constater eh bien, qu'au fil des blockbusters historiques, le principal problème reste le même, c'est-à-dire que la véracité de la reconstitution est totalement sacrifiée sur l'autel du grand spectacle. Difficile d'être happé par les images lorsque les combattants se font tuer sans une seule goutte de sang, classification tout public oblige, ou de s'émerveiller devant une 3D sans intérêt qui vous noie dans un flot de décors numériques propres et colorés comme un magasin jouet-club. Les comédiens témoignent d'un manque d'expressivité rarement atteint, le premier rôle étant notamment tenu par Kit Harington, alors qu'il est connu des fans de Game of Thrones, c'est-à-dire environ 99% des gens, sauf moi, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Oh Manu,
j'ai jamais vu
on va peut-être pouvoir reformer un club. Alors, la plus grande qualité de ce Kit Harington, sa plus grande qualité d'acteur, c'est malheureusement de posséder plus d'abdos que d'expressions faciales. J'ai compté, j'ai eu 1h45 pour le faire. Il a très exactement 8 abdos, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. En revanche, il arrive à faire 2 têtes différentes, ce qui n'est pas assez pour avoir un Oscar. Face à lui, Emily Browning est celle qui tire quand même le mieux son épingle du jeu. On l'avait déjà remarqué dans Sucker Punch, Zack Snyder, et également dans le très confidentiel Sleeping Beauty que j'avais chroniqué ici et que j'avais personnellement beaucoup aimé. Et tout le reste des comédiens eh bien, se contentent de faire des caméos dans l'anachronisme confine au ridicule. On retrouve ainsi Kiefer Sutherland ou Carrie Anne Moss qui viennent cachetonner, figés dans leur toge et dans leur botox. On a aussi droit au grand black gentil qui meurt, comme tous les blacks dans les films américains, mais que l'on doit quand même faire apparaître pour la beauté du quota. Autant vous dire eh bien, que les considérations scénaristiques autour de la lutte des classes ne volent pas haut, que l'histoire d'amour platonique a tout pour vous laisser stoïque. Référence au philosophe grec. Platonique, stoïque.
Oui.
Les rires, s'il vous plaît.
Ah, au final... Non, là, c'était trop culturel. Hein.
Pardon.
Et puis en plus, surligner une référence que tu viens de faire.
C'est important, j'avais demandé quelques conseils à Danny Boone, mais au final, vous ne trouverez pas le plaisir coupable que vous étiez venu chercher dans ce bon pays, même si, comme moi, vous aimez les mecs en jupe et en sandales. La réalisation est trop paresseuse et trop involontairement comique pour que l'on puisse trouver quelques qualités au film, d'autant que l'explosion, tant attendue, tarde à arriver et ne constitue qu'un final assez frustrant. L'affiche annonce « Vivez la plus grande catastrophe de l'histoire ». Non, c'est juste la plus grosse catastrophe de ce début d'année. Je vous déconseille fortement d'y aller. Si vous voulez néanmoins le faire, c'est au Gaumont Multiplex uniquement et ça ne passe qu'en VF pour ne rien arranger. Voilà. Eh bien, on va pas rester sur cette mauvaise impression, hein. On va enchaîner sur du bon maintenant.
Sur du vieux.
Sur De Palma.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Carburetors, man. That's what life is all about.
Alors un petit bonheur après le désolant film de Jarmusch et Pompéi, hein, et la catastrophe Pompéi. Voilà, je peux pas passer une année sans évoquer un Brian De Palma, donc ça tombe bien, la ressortie de Phantom of the Paradise en copie neuve est une bénédiction, d'autant que je ne l'ai jamais vu en salle, peut-être au moins 366 fois en DVD ou en Blu-ray et en VHS, mais jamais en salle. Alors, je rappelle l'histoire pour les amnésiques ou ceux qui n'auraient jamais vu le film. Swan, producteur et patron du label Death Records, cherche la musique parfaite qui ouvrira le Paradise, sorte de palais du rock qu'il veut lancer sur le marché. Il repère la musique de Winslow Leach, un jeune compositeur inconnu, et à qui il va voler la partition. Il le fait enfermer pour trafic de drogue à la prison de Sing Sing, mais Leach s'échappe et, en tentant de s'introduire chez Swan, est victime d'un accident. Défiguré, brûlé et sans voix, il va hanter le Paradise. Ça vous rappelle évidemment quelque chose ? Phantom of the Paradise concentre quelques-uns des grands thèmes de la littérature fantastique. 3 œuvres clés sont librement interprétées et intelligemment articulées entre elles. Il y a évidemment le portrait de Dorian Gray, le Faust de Goethe et le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Soit un savant mélange de cynisme raffiné, de romantisme allemand et de fantastique populaire hérité de l'esprit feuilletonesque. Alors ces influences sont vraiment très bien digérées. Le scénario bouillonne d'inventivité, de private jokes pointus. Il y a notamment une citation de Proust, avec une petite phrase du côté de chez Swann, enfin à un moment, c'est assez amusant. Il y a des références délirantes, dont une parodie dantesque de Psychose d'Hitchcock, de personnages joués en couleur campés par des comédiens géniaux, le trio Paul William, William Finlay et Jessica Harper est vraiment à se damner. Et puis surtout, Fantôme est habité par une mise en scène monstrueuse, un agencement de style hybride en parfaite osmose avec le récit, donc qui mélange en fait le film d'horreur, le comic book et le mélodrame. Donc De Palma, il extériorise vraiment sa virtuosité, hein, s'offre vraiment tous les excès, il accumule les effets visuels comme le split screen, beaucoup de grands angles, vraiment des mouvements de caméra fantastiques. Voilà, il y a un maestrum, ce maestrum d'image, loin d'être stérile, engendre vraiment une œuvre assez unique, un somptueux mélodrame fantastique porté par une belle histoire d'amour quand même, digne de La Belle et la Bête de Cocteau, pas de
pas la version Gans.
Pas de Gans, voilà. Le long final impressionne par ses audaces formelles, sa grandiloquence rageuse et sa puissance d'incarnation d'un récit articulé donc autour de la belle, c'est Phoenix, la bête, le fantôme et l'homme qui a vendu son âme au diable. Donc moi je le conseille, passe au Diagonal. Je le conseille fortement, mais bon, j'irai le voir puisqu'il sort aujourd'hui au Diagonal. Alors je sais pas, je crois qu'il doit passer à 22h30 tous les soirs. Roll on thunder, shine on lightning, the days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway, and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder. Well, some grow wiser, you just grew older. Well, you never listened anyway, and that's the hell of it.
Voilà donc la reprise de Phantom of the Paradise. Et, of the Paradise
of the
Paradise. Oui,
je signale juste aussi, c'est encore cette semaine, il y a aussi la reprise de Blue Velvet de David Lynch
en effet,
au Diagonal.
Oui, également au Diago.
Qui est encore visible pour une semaine. C'est l'or.
Il est l'or. Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.